Chapitre 7. L'âge d'or est passé. Tom fit son cinquième semestre à King's Lorton et y resta jusqu'à ce qu'il eût accompli ses 16 ans. Tandis que Maggie grandissait, avec une rapidité très répréhensible selon ses tantes, à la pension de Miss Firmis, dans l'ancienne ville de Laysom sur la Flosse, ayant sa cousine Lucy pour compagne. Dans ses premières lettres à Tom, elle envoyait toujours des amitiés à Philip et faisait à son sujet beaucoup de questions qui n'obtenaient pour réponse que quelques courtes phrases sur le mal de dents de Tom et sur une maison de gazon qu'il aidait à construire dans le jardin, avec quelques autres nouvelles du même genre. Elle apprenait avec chagrin, lors des vacances, que Philip était de nouveau aussi singulier que jamais et souvent de mauvaise humeur. Tom et lui n'étaient plus bons amis à ce qu'elle voyait. Et quand elle rappelait à son frère qu'il devrait toujours aimer Philip, qui avait été si bon pour lui quand son pied avait été blessé, il répondait « Bon, ce n'est pas ma faute, je ne lui fais rien. » Elle vit à peine Philip pendant tout le temps de leur vie de pension. Lors des vacances d'été, il était toujours au bord de la mer, et à Noël, elle ne pouvait le rencontrer qu'à de longs intervalles dans les rues de St. Ogg's. Quand ils se voyaient, elle se rappelait sa promesse de l'embrasser. Mais en jeune fille qui a été en pension, elle se disait que ce genre de salutation n'était plus possible et que Philip ne pouvait s'y attendre. Cette promesse était vaine et illusoire, comme tant d'autres fêtes dans notre enfance, ce temps d'une innocence semblable à celle des habitants d'Éden, avant que les saisons fussent divisées. Et alors que le péché étalait encore ses fleurs rosées autour de ses fruits déjà mûrs et veloutés, promesse impossible à remplir, les portes d'or une fois franchies. Mais lorsque M. Tulliver fut engagé dans ce procès si longtemps redouté, et que Wakeham, comme agent tout à la fois de Pivard et du vieux Harry, procéda contre lui, Maggie sentit avec quelque tristesse qu'il n'était pas probable qu'il y eût jamais de nouveau une intimité avec Philip. Le nom seul de Wakeham mettait son père en colère, et elle lui avait entendu dire une fois que si ce fils contrefait vivait pour hériter des biens mal acquis de son père, il y aurait malédiction sur lui. « Aie aussi peu de rapport avec lui à la pension que tu pourras, mon garçon, » dit-il à Tom. Et cet ordre fut d'autant plus facilement observé que M. Stelling avait dans ce moment 2 élèves de plus. Quoique l'élévation du révérend dans le monde n'eût pas la rapidité à laquelle s'étaient attendus ses admirateurs, il avait cependant un accroissement de prospérité suffisant pour augmenter ses dépenses, toujours disproportionnées avec son revenu. Quant aux études de Tom à la pension, elles cheminaient avec la monotonie d'un moulin. Son esprit continuait à se mouvoir lentement et à demi engourdi dans un milieu pour lui sans intérêt et inintelligible. Mais à chaque congé, il apportait à la maison des dessins de plus en plus grands et estompés, et des paysages à l'aquarelle au verre brillant, ainsi que des cahiers manuscrits pleins d'exercices et de problèmes, dont l'écriture était d'autant plus belle qu'il y mettait toute son intelligence. À chaque congé aussi, il revenait à la maison avec 1 ou 2 nouveaux livres, indiquant ses progrès dans différents points d'histoire, de doctrine chrétienne et de littérature latine. Et ce temps d'étude ne fut pas entièrement sans résultat, outre la possession de ses livres. L'oreille et la langue de Tom s'étaient habituées à un grand nombre de mots et de phrases que l'on considère comme les signes d'une bonne éducation. Et quoiqu'il n'eût jamais réellement appliqué son esprit à aucune de ces leçons, elles avaient laissé dans sa mémoire un dépôt de notions vagues, morcelées et sans effet. M. Tulliver, trouvant là des signes d'instruction au-dessus de la portée de sa propre critique, pensa que tout allait probablement bien dans l'éducation de Tom. Il observa, il est vrai, qu'il n'y avait point de plan et pas assez d'addition, mais il ne fit pas de plainte positive à M. Stelling à ce sujet. C'était une affaire embarrassante qu'une pension, et s'il retirait Tom de celle-là, où pourrait-il l'envoyer pour obtenir un meilleur résultat? À l'époque du dernier trimestre de Tom à King's Lorton, les années avaient apporté des changements frappants en lui depuis le jour où nous l'avons vu revenir de l'académie de M. Jacobs. C'était maintenant un grand jeune homme, se tenant sans la moindre gaucherie et parlant avec une légère timidité, indice de sa fierté et de sa défiance personnelle. Il portait l'habit à pans, les cols droits, et il surveillait avec une grande impatience le léger duvet de ses lèvres, regardant tous les jours le rasoir encore vierge qu'il s'était procuré pendant les dernières vacances. Philippe était parti, au trimestre d'automne, pour aller passer l'hiver dans le Midi à cause de sa santé. Ce changement contribuait à donner à Tom l'agitation joyeuse qui appartient ordinairement aux derniers mois précédant le départ de la pension. C'était pendant ce trimestre aussi que devait se décider le procès de M. Taleva, et cela rendait d'autant plus agréable la perspective du retour à la maison. Car Tom, qui jugeait les faits d'après la manière de voir de son père, n'avait aucun doute que Pivard ne fût battu. Tom n'avait aucune nouvelle de chez lui depuis quelques semaines, ce qui ne le surprenait pas, car son père et sa mère ne manifestaient pas leur affection par des lettres sans nécessité. Quant à sa grande surprise, le matin d'une sombre et froide journée de novembre, on lui dit peu après son entrée dans la salle d'études que sa sœur était au salon. Ce fut Mme Stelling qui vint dans la classe pour l'avertir, et elle le laissa entrer seul. Maggie aussi avait grandi. Elle paraissait presque de la taille de Tom, quoiqu'elle n'eût que 13 ans, et certes, dans ce moment, elle semblait plus âgée que lui. Elle avait ôté son chapeau. Des tresses épaisses étaient repoussées en arrière de son front, comme s'il ne pouvait pas supporter ce poids de plus, et son jeune visage avait l'air étrangement fatigué, tandis que ses yeux se tournaient anxieusement vers la porte. Quand Tom entra, elle ne parla pas, mais s'avança vers lui, lui passa les bras autour du cou et l'embrassa avec ardeur. Il était habitué à ces manières d'être si changeantes en elle et ne fut point alarmé du sérieux inaccoutumé de sa réception. « Mais comment se fait-il que tu sois ici de si bonne heure, par cette froide matinée, Maggie ? Es-tu venue dans le cabriolet ? » dit Tom, comme elle se reculait vers le sofa et la tirait à ses côtés. « Non, je suis venu par la voiture publique. J'ai marché depuis la barrière jusqu'ici. »« Mais pourquoi n'es-tu pas à ta pension ? Les vacances n'ont pas encore commencé. » « Le père a désiré que je vinsse à la maison, » dit Maggie, avec un léger tremblement des lèvres. « J'y suis arrivé il y a 3 ou 4 jours. » « Est-ce que mon père n'est pas bien ?» dit Tom avec inquiétude. « Non, pas très bien, » dit Maggie. « Il est très malheureux, Tom. Le procès est terminé, et je suis venu pour te le dire, parce que j'ai pensé qu'il valait mieux que tu le susses avant de venir chez nous, et je ne voulais pas t'en instruire par une lettre. » « Mon père n'a pas perdu, » dit Tom immédiatement, en s'élançant du sofa et se tenant debout devant Maggie, avec les mains soudainement enfoncées dans ses poches. « Si, cher Tom, » dit Maggie, levant les yeux sur lui en tremblant. Tom resta silencieux 1 ou 2 minutes, les yeux fixés sur le plancher. Puis il dit, « Mon père aura à payer beaucoup d'argent alors. » « Oui, » dit Maggie, presque défaillante. « Eh bien, on pourra y pourvoir, » dit Tom courageusement, ne pouvant apprécier ce que représente une grosse somme d'argent. « Mais mon père est bien peiné, j'en suis sûr, » ajouta-t-il en regardant Maggie, tout en pensant que son expression agitée provenait de son inexpérience enfantine. « Oui, » dit Maggie encore plus faiblement. Puis, forcée à mieux s'expliquer par le calme confiant de Tom, elle dit à haute voix et avec rapidité, comme si les paroles s'échappaient malgré elle, « Oh, Tom, il perdra le moulin et les terres, et tout, il ne lui restera rien. » Les yeux de Tom lui lancèrent un regard de surprise, puis il devint pâle et trembla d'étonnement. Il ne dit rien, mais se rassit sur le sofa, regardant vaguement la fenêtre en face. L'inquiétude sur l'avenir n'était jamais entrée dans l'esprit de Tom. Son père avait toujours monté un bon cheval, tenu une bonne maison, et toujours eu l'air gai et confiant d'un homme qui possède assez de fortune pour se tranquilliser. Tom n'avait jamais rêvé que son père pût faire faillite. C'était une forme de malheur dont il avait toujours entendu parler comme d'un profond déshonneur, et le déshonneur était une idée qu'il ne pouvait accepter pour aucune de ses relations, encore moins pour le nom de son père. Un sentiment orgueilleux de respectable honneur de famille faisait partie de l'atmosphère dans laquelle Tom avait vécu. Il savait qu'il existait à St. Oaks des gens faisant figure sans posséder assez d'argent pour cela, et on parlait toujours dans sa famille de tels gens avec mépris et blâme. Il avait toujours eu la persuasion, sans en chercher la preuve, que son père pouvait dépenser beaucoup d'argent si cela lui convenait. Depuis que son éducation chez M. Stelling lui eut fait connaître une vie plus luxueuse, il s'était souvent imaginé que lorsqu'il serait plus âgé, Il ferait figure dans le monde avec son cheval, ses chiens et des ajustements de jeune homme élégant, et qu'il se montrerait l'égal à St. Ogg's de ceux de ses contemporains qui pourraient se croire ses supérieurs dans le monde, parce que leur père avait des emplois ou possédait de grands moulins à huile. Quant aux pronostics et hochements de tête de ses oncles et de ses tantes, ils n'avaient jamais produit le moindre effet sur lui, si ce n'est de lui faire trouver que les oncles et les tantes étaient une société désagréable. Quand on les entendait toujours blâmer les mêmes choses de la même manière, d'aussi loin qu'ils pouvaient s'en souvenir. Son père en savait plus qu'eux. Le duvet était venu aux lèvres de Tom, et cependant ses pensées et ses prévisions étaient encore la reproduction, sous des formes différentes, des rêves enfantins dans lesquels il vivait 3 ans auparavant. Maintenant, une violente secousse le réveillait. Maggie fut effrayée du silence de Tom, qui restait pâle et tremblant. Elle avait encore quelque chose de plus à lui dire, quelque chose de pire. Elle jeta enfin les bras autour de lui, et lui dit en sanglotant à moitié, « Oh, Tom, cher Tom, ne te trouble pas trop. Essaye de pouvoir tout supporter. » Tom tourna machinalement la joue de son côté pour recevoir ses baisers encourageants, et il amassa dans ses yeux quelques larmes qu'il essuya avec la main. Ce mouvement parut le réveiller, car il se secoua et dit « Je vais aller à la maison avec toi, Maggie. Mon père ne te l'a-t-il pas dit ?»« Non, Tom, le père ne l'a pas demandé, » dit Maggie, son anxiété sur ce qu'il éprouvait la rendant capable de contenir son agitation. Que ferait-il quand elle lui dirait tout ?« Mais maman désire que tu viennes, pauvre mère. Elle pleure tant. Oh, Tom, c'est terrible à la maison. » Les lèvres de Maggie devinrent plus pâles et elle commença à trembler presque autant que Tom l'avait fait. Les deux pauvres êtres se serraient l'un contre l'autre, tous deux frémissants, l'une d'une frayeur non définie, l'autre à l'image d'une terrible certitude. Quand Maggie parla, ce fut à voix basse. Et le pauvre père, Maggie ne put articuler, mais le doute était intolérable pour Tom. Une vague idée de prison, comme conséquence d'une dette, fut la forme que revêtirent ses craintes. « Où est mon père ? » dit-il avec impatience. « Dis-le-moi, Maggie. » « Il est à la maison, » dit-elle, trouvant plus facile de répondre à cette question. « Mais, » ajouta-t-elle après une pause, « il n'est plus lui-même. Il est tombé de cheval. Il n'a reconnu personne depuis, excepté moi. Il paraît avoir perdu ses sens. Oh, père, père !» À ces derniers mots, les sanglots de Maggie éclatèrent avec d'autant plus de violence qu'elle avait lutté davantage. Tom sentit ce serrement de cœur qui arrête les larmes. Il n'avait point une perception distincte de leur malheur, comme l'avait Maggie, qui en avait été témoin. Il sentait seulement le poids écrasant de ce qui lui paraissait une infortune sans consolation. Il serrait les bras presque convulsivement autour de sa sœur qui sanglotait, tandis que son visage à lui paraissait froid et sans larmes, ses yeux fixes, comme si un noir rideau de nuages était soudain tombé sur sa route. Mais Maggie se domina subitement. Une seule pensée agit sur elle comme un son qui réveille. « Il faut partir, Tom. Il ne faut pas nous attarder. Je manquerai à mon père. Il nous faut être à la barrière à 10 heures pour le passage de la voiture. » Elle dit ceci avec une prompte décision en s'essuyant les yeux, et se levant pour prendre son chapeau. Tom sentit aussitôt la même impulsion et se leva tout de suite. « Attends une minute, Maggie, » dit-il. « Il faut que je parle à M. Stelling et nous partirons. » Il se rendit à la classe où étaient les élèves, mais en chemin il rencontra M. Stelling, qui avait appris de sa femme que Maggie avait l'air malheureux en demandant son frère. Et maintenant qu'il pensait que le frère et la sœur avaient été assez longtemps ensemble, il venait se renseigner et offrir sa sympathie. « S'il vous plaît, monsieur, il faut que j'aille à la maison, » dit Tom brusquement, en rencontrant M. Stelling dans le corridor. « Il faut que je retourne tout de suite avec ma sœur. Mon père a perdu son procès. Il a perdu tout ce qu'il possédait, et il est très malade. » M. Stelling sentit la chose en homme doué d'un bon cœur. Il prévit pour lui-même une perte probable d'argent, mais cela n'eut pas de part appréciable dans ses sentiments, tandis qu'il regardait avec une sérieuse pitié le frère et la sœur, dont la jeunesse et les épreuves commençaient en même temps. Quand il sut comment Maggie était venue, et comme elle était impatiente de retourner à la maison, il hâta leur départ en chuchotant quelque chose à Madame Stelling, qui l'avait suivi et qui sortit aussitôt de la chambre. Tom et Maggie étaient debout sur le seuil de la porte, prêts à partir, quand Madame Stelling revint avec un petit panier qu'elle suspendit au bras de Maggie en disant « N'oubliez pas de manger quelque chose en chemin, cher enfant. » Le cœur de Maggie fut attiré vers cette femme qu'elle n'avait jamais aimée, et elle l'embrassa sans rien dire. C'était le premier signe chez la pauvre enfant de ce nouveau sens que donne l'affliction, cette faculté d'apprécier les simples traits d'humanité comme les liens d'une fraternité aimante. De même que pour les âmes perdues dans les glaces des montagnes, la simple présence d'un compagnon ordinaire ranime les sources profondes de l'affection. M. Stelling posa la main sur l'épaule de Tom et lui dit « Dieu vous bénisse, mon garçon. Faites-moi savoir de vos nouvelles. » Puis il serra la main de Maggie, mais on n'entendit point d'adieu. Tom avait si souvent pensé combien serait joyeux le jour où il quitterait cette maison pour toujours. Et maintenant, ses années de pension lui faisaient déjà l'effet de vacances terminées. Les deux jeunes gens ne furent bientôt plus que des formes indistinctes sur la route éloignée et disparurent au détour du chemin. Ils partaient ensemble pour leur nouvelle vie d'affliction, et le soleil ne devait plus briller sur eux sans qu'il fût troublé par le souvenir du chagrin. Ils entraient dans le désert épineux, et les portes d'or de leur enfance s'étaient pour toujours fermées.